l'Inquisition et le maranisme. Les Juifs ne disparurent pas de la conscience des Espagnols en 1492, ni au Portugal après les baptêmes de 1497. Non, comme raconte Salomon Ibn Verga, érudit de l'époque, quelqu'un dit au roi « Et de quel profit sera-t-il à notre Seigneur et roi de verser l'eau bénite sur les Juifs en les appelant Pedro ou Pablo, alors qu'ils restent attachés à leur foi comme Akiba ou Tarfon ?» Sachez, sire, que le judaïsme fait partie des maux incurables. Au XVIIe siècle, encore, des livres furent édités sous le titre « Contra los judíos de nuestra época », contre les Juifs de notre époque, et les tribunaux de l'Inquisition continuaient de célébrer des autodafés. Bien après la disparition des synagogues, les prédicateurs espagnols et portugais dénonçaient encore la perfidie des Juifs. Dans les églises étaient encore suspendus les San Benitos, c'était des scapulaires que les inquisiteurs faisaient porter aux Juifs qui allaient au bûcher ou aux pénitents. Dans des endroits publics, il y avait les listes des cérémonies juives caractéristiques, afin que les fidèles puissent dénoncer ceux qui osaient les accomplir. Les convertis, ou cristianos nuevos, ou en portugais cristãos novos, n'étaient en fin de compte que les descendants de ces nombreux juifs qui furent baptisés au XIVe ou XVe siècle. Encore au XVIIe siècle, ces nouveaux chrétiens constituaient pour la population une classe à part et la distinction entre nouveaux chrétiens et juifs était souvent vague. Mais ce prolongement du fait marane ne vient pas des Espagnols, mais des Portugais. Vers la deuxième moitié du XVIe siècle, il semble qu'il n'y ait plus de marane en Espagne car les conversos finirent par perdre l'énergie et se fondirent dans la masse, sauf peut-être dans quelques villes éloignées comme à Badajoz, près de la frontière avec le Portugal. Aussi, à partir des années 1550, l'Inquisition espagnole s'occupait plus des protestants et autres hérétiques que des juifs. Mais au XVIIe siècle, l'Inquisition espagnole dut combattre à nouveau l'hérésie judaïsante avec l'arrivée des nouveaux chrétiens portugais. Le cas des conversos au Portugal était différent de celui des Espagnols qui avaient fini par perdre leur énergie car, de 1391 à 1492, ils étaient passés par des vagues successives de massacres et de paniques qui provoquèrent les conversions jusqu'à l'expulsion en 1492. Quant aux Portugais, leur conversion forcée fut soudaine et tous à la fois. Sous le règne de Manuel I de Portugal, même les Juifs d'Espagne qui avaient cherché refuge au Portugal furent contraints à la conversion. Et le crypto-judaïsme des conversos du Portugal fut très fort. Et c'est que ce n'est que 40 ans plus tard que l'Inquisition fit son entrée au Portugal, ce qui leur donna le temps de s'organiser. Le judaïsme des Portugais était plus résistant que celui des Espagnols, car ils n'avaient pas vécu comme les Espagnols dans une communauté où certains se convertissaient et pas d'autres, et parfois au sein d'une même famille. Chez eux, ce fut tous à la fois et au même moment. Au Portugal, ce fut la communauté entière qui fut convertie, et elle conserva son unité et son énergie. Elle avait le sentiment d'avoir partagé dès le début un même destin. Les nouveaux chrétiens au Portugal parvinrent aux plus hauts échelons du commerce et des finances, et en même temps créèrent les fondements du crypto-judaïsme qui allait s'installer pendant une très longue période. Il faut se rappeler du village de Belmonte, où l'on a trouvé une communauté de gens qui professaient leur crypto-judaïsme en cachette au XXe siècle. La communauté de ces conversos montra sa vitalité quand ils s'opposèrent à l'établissement de l'Inquisition. Grâce aux contacts qu'ils avaient avec l'étranger, ils déployèrent une activité diplomatique intense. Mais malgré tous leurs efforts, le roi Jean III obtint du pape en 1536 l'établissement de l'Inquisition et jusqu'en 1547, elle fut terrible. On l'a dit plus cruelle que l'espagnole. Cependant, le destin des nouveaux chrétiens des deux royaumes devait se retrouver quand, en 1580, Felipe II d'Espagne annexa le Portugal. Les nouveaux chrétiens portugais firent une pétition au roi pour abolir les distinctions entre anciens et nouveaux chrétiens. Non seulement il refusa, mais il assista personnellement, après son couronnement le 1er avril 1582, à un autodafé, fidèle à sa lignée. Malgré cela, beaucoup de conversos portugais passèrent en Espagne, car le pays était plus riche et ils avaient plus de possibilités, et l'inquisition portugaise étant virulente, l'Espagne passait presque pour un refuge. Mais l'Espagne, qui se croyait débarrassée des Juifs, se retrouvait, le siècle suivant, de nouveau confrontée à son problème. Les nouveaux chrétiens du Portugal furent si nombreux à rentrer en Espagne que les mots « portugais » et « juifs » étaient synonymes. Le problème de l'Inquisition devint autre. On ne pouvait plus imposer des lois restrictives à cette communauté en tant que juifs puisqu'ils étaient convertis. Il fallut donc trouver autre chose. Ce fut la limpieza de sangre. On ne pouvait accéder à aucun honneur ni aucune charge. Si on n'avait pas un document appelé « prueba de sangre », qui assurait que notre sang n'était pas souillé par des éléments juifs ou morts. C'est franchement ironique quand on pense que cette société espagnole qui avait tant travaillé pour ces juifs se convertissent, pour que les juifs se convertissent, se retournait maintenant contre eux. Les arguments de l'Inquisition n'étaient donc plus d'ordre théologique, mais ethnique. Ce n'est plus la foi, mais le sang qui devenait le facteur décisif. Les statuts qui reflétaient la différence entre nouveaux et vieux chrétiens servirent à maintenir pendant plusieurs siècles une conscience de classe, même parmi les descendants des conversos qui avaient oublié leur judaïsme. Même s'ils voulaient oublier leurs origines et s'assimiler vraiment, en tant qu'Espagnols ou Portugais, les statuts leur rappelaient leur ascendance, ainsi que les insultes, car le terme « Cristiano Nuevo » était comme une insulte. Tout cela contribua à maintenir ce groupe à part, quand l'intention première avait été de les assimiler. Mais il y a un autre facteur. Ils étaient rejetés légalement et socialement, mais le domaine économique les unissait. Dans le Portugal du XVIe et XVIIe, on les appelait « homens de negocios ». Et c'est que on les trouvait dans tous les domaines du négoce et de la haute finance. Une grande partie du commerce extérieur était entre leurs mains. Leur relation s'étendait jusqu'aux colonies de commerçants nouveaux chrétiens, émigrés aux quatre coins du monde. Mais on les appelait aussi « homens da nação », les hommes de la nation, désignant la nation juive, ce qui inclut au Portugal tout individu d'origine juive. Au Moyen-Âge, la communauté représentait une entité nationale composante d'une nation en exil. Et la communauté baptisée continuait de représenter la même chose pour les Portugais au XVIe et au XVIIe siècle. On se demande si ce n'est pas cette persistance à nous considérer un groupe à part qui a permis de maintenir ce maranisme et sauver de l'assimilation pas mal de juifs comme Isaac Cardoso, qui après avoir vécu à la cour de Felipe IV en tant que chrétien, finit ses jours dans le ghetto de Verona en tant que juif. Martina Lasri para Radio Sefarad. Martin Lasri pour Radio Sefarad. Yeah.